Paul Laurence Espinoza dans la salle. Alors donc, ça sera bel et bien la dernière présentation. Alors, de Adeline Perrault, qui va nous parler de guérir d'une maladie génétique dite incurable, avec un collègue, Didier...
Un co-auteur qui
n'est pas là.
Présent. Voilà, il est un autre colloque aujourd'hui. Très, très bon.
Est-ce que tu as un point aussi?
Non. La communication plutôt à travers les mots. Alors, déjà, je vais revenir un petit peu sur le contexte de l'étude. En fait, il s'agit du projet HAM qui porte sur les adaptations et les habitudes de vie des personnes atteintes de la maladie de Steiner. Donc, c'est une recherche collective qui est composée donc, d'une équipe de 3 sociologues. Anne-Chantal Hardy, présente, directrice de recherche au CNRS. Didier Lecordier, qui était cadre infirmier dans un service accueillant ses patients et qui est ingénieur d'études au CNRS et doctorant à la fois. Et moi-même, qui occupe donc, les mêmes fonctions. C'est une étude de 2 ans qui a obtenu un financement de la Fondation des maladies rares. C'est un financement qui va prendre fin à la mi-novembre. Donc, on arrive plutôt en phase finale d'écriture du projet. Et il a la particularité en fait d'avoir été conçu en collaboration avec les centres de référence des maladies neuromusculaires rares de Nantes et d'Angers. Essayer de créer une approche un peu plus interdisciplinaire en ayant des comités de pilotage en commun. Alors ça a déjà enclenché l'ouverture de ces différents terrains de recherche comme source d'observation. Et par la suite, on a également réalisé des entretiens, environ une vingtaine, au domicile de ces patients qu'on avait pu rencontrer en consultation multidisciplinaire et auprès de leur entourage. Mais alors, la particularité, c'est que notre population, on l'a volontairement choisie comme celle qui est diagnostiquée à partir de l'âge de 20 ans. Et vous allez voir que ça va beaucoup jouer dans ce que je vais vous dire. Alors, avant tout, qu'est-ce que la maladie de Steiner? Donc, une maladie qui est peu présente au niveau médiatique, qui est assez méconnue. Pour vous donner déjà une définition médicale, c'est une maladie chronique, évolutive, rare et génétique. Et sa transmission, elle va se réaliser sur un mode dominant, donc avec précisément un risque de transmission à 50% par le père ou la mère. Et alors, elle se réalise sous une forme instable et va s'aggraver au fil des générations. C'est-à-dire qu'on peut la situer aussi dans l'ensemble des maladies neuromusculaires. Donc, vous voyez qu'elle a plusieurs affiliations. Et plus généralement, homéopathie, ce qui explique des liens qui sont établis avec une association comme l'AFM, qui va pouvoir intervenir auprès de ces patients. Alors, au niveau des symptômes, c'est très difficile à définir parce qu'ils sont plurifonctionnels. C'est-à-dire qu'en plus d'une atteinte de la force musculaire, qui est l'atteinte principale, il y a aussi en fait d'autres organes et fonctions qui peuvent être altérés, donc les yeux à travers une cataracte précoce, le cœur par des troubles du rythme et de la conduction, qui peuvent déclencher d'ailleurs une mort subite. Donc c'est le risque principal évoqué par les médecins qui peut pousser à un diagnostic précoce. Les cheveux avec une calvitie précoce, donc si vous voulez, ça va donner aussi un faciès assez reconnaissable chez ces patients pour les médecins qui sont habitués à les voir couramment. Donc, et également atteint le système respiratoire, le sommeil, donc à travers des apnées, de l'hypersomnie, ou encore les fonctions sexuelles et reproductrices avec une ménopause précoce, des troubles de la fertilité ou de l'érection, et ainsi que des troubles cognitifs, surtout quand ce sont les générations les plus aggravées, voilà, qui sont touchées. Donc, alors contrairement à d'autres maladies génétiques, c'est une maladie qui se présente plutôt sous une forme instable et qui va se manifester selon des tableaux très divers en fonction des générations. Donc, comme je vous l'ai dit, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au fur et à mesure des transmissions, l'âge de début est avancé et donc la sévérité de la maladie, elle est également accentuée. Donc, il y a une corrélation qui est établie entre le nombre de répétitions de triplé CTG. Ce qui fait que les jeunes générations, elles vont être profondément atteintes. Dès leur plus jeune âge, elles peuvent même décéder à la naissance. Tandis que le pôle âgé, lui, ne peut avoir que de faibles manifestations tardives et ne pas être diagnostiqué de toute sa vie. Donc vous voyez, ça crée un écart énorme dans les membres d'une même famille. Alors, en dehors d'actions d'accompagnement, parce que justement, en particulier autour de ces bilans cardiaques pour les troubles silencieux ou asymptomatiques, donc prévenir une mort subite, jusqu'à présent, il n'existe aucun traitement qui serait susceptible de modifier le cours de cette maladie, son évolution. Donc voilà, je vais m'arrêter ici sur les détails de cette maladie qui est complexe, vous l'avez compris. Mais il faut juste préciser que c'est la maladie la plus fréquente parmi les dystrophies musculaires de l'adulte, avec une prévalence d'une personne sur 20 000 en France. Donc voilà, et pour terminer, en fait, il y a une telle variabilité de ces manifestations qui rend la prise en charge et la prévisibilité de son évolution très difficile. D'ailleurs, il y a eu donc déjà la première description de la maladie il y a un siècle, mais la découverte du gène ne s'est faite qu'en 92. Et donc, ça fait environ une dizaine d'années qu'a été mis en place un dispositif de prise en charge et donc des consultations systématiques dans des centres de référence des maladies neuromusculaires en France qui sont labellisés depuis 2004-2007. Donc voilà, c'est un contexte pour vous préciser comment sont pris en charge ces patients, en fait. Donc ils arrivent soit en consultation simple ou en consultation multidisciplinaire. Mais c'est un contexte de départ qui nous a interrogés parce que ces patients semblent avoir mauvaise réputation dans le milieu médical, ce qui rend leur prise en charge problématique. Alors déjà, ils ont un aspect physique que je vous ai décrit qui peut être assez atypique quand on est habitué à les voir. Ils ont également des difficultés communicationnelles importantes qui se traduisent par un brouillage de leur élocution, un affaissement des muscles du visage qui rend par exemple le sourire quasiment impossible. Donc déjà, ce qui dans l'interaction produit un effet assez particulier voilà, dans les premiers contacts. Et d'après les médecins, pour vous expliquer un petit peu cette mauvaise réputation, d'après eux, déjà, ils ont un mode de gestion de leur trouble qui est assez spécifique, dans la mesure où, par exemple, certains vont dire qu'ils prennent toujours les mauvaises décisions, qu'ils agissent trop tard, ou à l'inverse, qu'ils agissent en ne prenant pas les bonnes décisions pour eux. Donc ce sont autant de caractéristiques qui vont conduire les médecins à les considérer comme récalcitrants, ou peu observant par rapport au suivi qui leur est proposé. Donc c'est cette expérience un petit peu singulière des malades, du suivi qu'on a tenté de creuser dans l'enquête qualitative et inductive, parce que ce sont des malades qui sont souvent en opposition avec les soignants sur la manière dont il convient d'agir autour du diagnostic. Donc voilà, alors s'il est rare de les voir s'identifier justement à ce statut de malade, malgré tout, qui est réactivé à chacune des consultations. Au contraire, ce qu'on a observé, c'est que la plupart cherchent à se ranger autant que possible dans la norme des bien portants et que leur volonté est avant tout de s'affranchir de la seule référence médicale qui les enferme dans ce statut de malade, qui n'est pas toujours le leur, en tout cas qui intervient parfois dans une vie qui est déjà construite. Alors ici, donc vous l'aurez compris, on ne cherche pas à juger les degrés de sévérité de la maladie parce qu'elle atteint des formes très diverses. Notre enquête, elle vise surtout à regarder, scruter un petit peu ce processus d'effacement de la maladie dans les occasions sociales, à la fois à l'hôpital et dans la vie extérieure. Et c'est dans ce sens que nous avons mobilisé la question de la guérison, justement en tant que moyen pour ces personnes de normaliser ce qui leur arrive, au lieu d'adopter sans hésitation le schéma médical qui leur est imposé, suite à cette enquête familiale donc, qui va couvrir toute la famille ou à ce test génétique qui les touche directement. Donc notre problématique a tourné vraiment autour de voir comment, enfin, est-ce qu'il est possible de se saisir de cette figure de la guérison pour comprendre l'expérience de personnes atteintes d'une maladie chronique irréversible. Et guérir illustrerait ici un processus qui leur permet de s'émanciper de l'annonce du diagnostic et de s'affranchir de cet étiquetage médical. Donc voilà un petit peu comment on a posé les bases de cette communication. Et donc pour lui donner un déroulement un petit peu en trois temps, d'abord pour voir, pour vous montrer comment on entend mobiliser la guérison dans cette maladie génétique qui est supposée irréversible, et donc avec peut-être une pertinence à insoupçonner de cette notion de guérison ici. A priori, c'est une notion qui ne semble pas du tout utile pour évoquer ces personnes porteuses d'un gène considéré anormal, donc avec toutes ses conséquences irrémédiables sur la santé. Et pourtant, enfin, dans un second temps, on va voir du côté médical déjà comment ce pronostic de mauvais augure introduit l'idée d'une évolution inéluctable vers la dégradation de leur état physiologique. Et dans un dernier temps, on arrive à dépasser cette vision de déclin attendue parce que l'enquête, elle a vraiment révélé des formes d'évacuation de la maladie que développent certains patients et qui leur permet de penser autrement, qui nous permet de penser autrement le processus de guérison. Alors, la maladie chronique, déjà, c'est suggéré une maladie de longue durée, donc progressive, et qui est souvent associée à une invalidité, voire à des complications graves. En fait, elle a le potentiel de se déclarer sous des formes plus aiguës, et ce qui pourrait entraîner une dégradation rapide de l'état de santé. Donc, dans le cas de la maladie de Steiner, ici, ce sont, ce que je vous ai dit, les complications cardiaques ou pulmonaires qui pèsent assez lourdement sur l'espérance de vie de ces patients et qui peuvent le placer dans des situations très, très aggravées. Donc la maladie chronique en général, souvent elle se définit dans le temps et sans espoir de guérison. D'ailleurs, il y a une représentation médicale qui serait de considérer cette maladie comme toujours présente et constamment perceptible. Donc ici, dans la maladie de Steiner, comment ça se traduit, cette régularité de cette présence dans la vie du patient, déjà par des troubles biologiques ou fonctionnels que j'ai commencé à vous aborder, donc qui se manifestent dans la vie quotidienne et peuvent altérer l'image corporelle. Pour vous dresser un tableau un peu plus clair, donc c'est une marche disharmonieuse, un ralentissement dans les gestes de la vie quotidienne, un manque de dynamisme qui est souvent souligné par leur entourage. Ils sont désignés comme mous on leur demande de se mobiliser un peu plus. Et ils ont également des faiblesses importantes à porter des charges lourdes, à serrer. Donc ce sont autant de troubles qui suscitent l'assistance d'autrui pour réaliser des gestes techniques là assez simples, comme par exemple desserrer un frein à main de voiture ou encore ouvrir un pot, fermer un bouton de chemise. Alors, cette omniprésence, elle se manifeste aussi par les interventions chirurgicales et les équipements qui sont proposés. Ici, principalement et de façon systématique, c'est d'ailleurs ce qu'on interroge parce que ce sont des interventions qui arrivent en prévention. Donc, la pose d'un pacemaker, la VNI, la ventilation non invasive, et l'opération de la cataracte, qui sont quasiment des standards de l'accompagnement de ces Steiner. Et enfin, donc, la maladie aussi, elle va s'immiscer dans la vie de ces personnes par les examens médicaux réguliers, justement, qui visent à établir l'avancée de la maladie. Donc, ce sont des consultations multidisciplinaires à fréquence annuelle, bi- ou triannuelle, qui portent sur ces examens cardiologiques, pulmonaires, neurologiques, mais encore. Enfin, voilà, c'est assez ouvert selon les centres de référence. Et donc, ce sont des rendez-vous répétés, si vous voulez, qui vont parfois prendre l'allure d'une scène d'annonce pour évaluer le degré d'atteinte, peut-être l'aggravation, et attirer l'attention du patient sur peut-être l'anticipation de difficultés à venir. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en quelque sorte, il y a un rappel continu de la présence de cette maladie et de ses implications corporelles et sociales. Du point de vue patient, et elle prend souvent, le problème, c'est que cette maladie tend parfois à devenir justement un faisceau unique d'explication qui empêche de voir autre chose ou pour les médecins d'avoir d'autres lectures alternatives ou possibles de cette maladie lorsque surgit pour eux d'autres types de symptômes. Donc c'est un tableau assez vaste et il y a une certaine impuissance thérapeutique puisque la guérison n'a pas sa place ici, si ce n'est d'envisager la santé à travers plutôt des actions de prévention pour réduire les risques ou les complications à venir. Alors parler de guérir d'une maladie chronique ou génétique ici paraît complètement hors sujet en l'absence de traitement de fond. Il y a un conseil génétique qui est effectué auprès des familles et des jeunes couples, qui est d'ailleurs une préoccupation majeure des soignants qui ne peuvent leur faire espérer la guérison, mais plutôt essayer de briser, de casser des chaînes de transmission, comme le diraient les patients, pour conduire à l'éradication du gène dans les lignées familiales. Donc la question de la guérison, elle est repoussée plutôt jusqu'à une période incertaine dans l'espoir que surgisse un traitement et dans l'attente de tous ces essais cliniques qui sont en train de se réaliser. Alors voilà, on aurait pu s'arrêter à ce constat que le guérir ici n'a pas sa place, et pourtant on a jugé que c'était intéressant d'ouvrir cette boîte analytique. 5 minutes. Voir comment sont formulés donc des espoirs de guérison, enfin plutôt des fantasmes du corps performant, des désirs de soins, pour essayer de revenir à un certain dynamisme et à l'agilité dans la vie ordinaire. En fait, dans notre enquête, on n'a pas pu ignorer justement que ces patients s'efforcent, enfin travaillent à faire advenir la vie dans leur réseau, dans leur maison. D'ailleurs, ils s'efforcent souvent, et ce qui est assez impressionnant, de faire tenir des rythmes de travail et domestique qui représentent une lutte contre l'avancée de cette maladie. Ce qui n'exclut pas que chez ces patients, et c'est aussi ce qu'on veut voir, ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils vivent des temps en dehors de la maladie où celle-ci, elle est latente et plus discrète. Donc des situations qui font oublier sa présence. C'est probablement des constats aussi qui viennent de notre focal, c'est-à-dire d'être auprès de patients, d'enquêter auprès de patients qui ont eu une annonce tardive de leur diagnostic, ce qui tend à les plonger dans des expériences de monsieur et madame tout le monde. Alors, on a vu, voilà, ça je pense avoir suffisamment insisté sur le fait que la maladie... Elle est davantage une problématique médicale, notamment parce que lors de l'arrivée du diagnostic, souvent la vie de la personne est déjà construite. Par exemple, il s'est déjà marié, il a déjà fondé une famille. Souvent la personne d'ailleurs, elle a un parcours professionnel derrière elle et elle s'est illustrée sur des niveaux de compétences qui ne pouvaient pas laisser présager l'arrivée de ce diagnostic. Donc on peut par exemple prendre le cas d'un homme qui, ce sera un cas plutôt extrême, qui se voit une carrière militaire en tant que général des armées françaises et qui pendant sa jeunesse, il a développé une force musculaire impressionnante par des entraînements sportifs qui étaient requis dans son milieu professionnel. Et à l'annonce du diagnostic, les médecins se sont montrés vraiment très surpris du déploiement d'une telle croissance musculaire. Malgré la présence, déjà la participation génétique donc de l'ADM1. Et c'est une situation qui n'est pas si exceptionnelle dans les cas rencontrés, puisque notamment donc chez les sujets très âgés et à des âges à qui on a découvert la maladie à un âge avancé, puisqu'ils ont pu accomplir toute leur carrière et jusqu'au moment de la retraite, et qui n'ont pas tellement de stigmates corporels. Et qu'on constate chez eux de faibles attentes. Donc on peut prendre par exemple le cas d'un homme qui a pu construire sa maison de plein pied, donc plutôt pour son fils qui avait une forme beaucoup plus aggravée que lui. Donc ça à l'âge de 60 ans, alors qu'il était diagnostiqué quelques années plus tôt. Voilà, donc c'était déjà pour vous donner des situations plus... plutôt sur le bord de l'absence, enfin, de l'absence ou de cette difficulté à voir la maladie. Mais à l'inverse, on a aussi de nombreuses situations où certains malades connaissent assez précocement des moments d'intrigue dans leur jeunesse. Et par exemple, ils vont les formuler telles quelles, comme des anecdotes, une difficulté à tirer au fusil, des assoupissements à l'école en cours, ou encore la main qui reste bloquée quand ils souhaitent serrer la main de leur médecin. Donc ce sont des histoires qui sont plus racontées sous la forme d'anecdotes et qui ne sont pas formulées directement comme des incapacités, qui ne sont pas reliées à des symptômes, mais qui vont être relus a posteriori sous le prisme de la maladie une fois que le diagnostic est posé. Donc on a observé une normalisation comme ça de ces indices sociaux qui pouvaient conduire sur la piste du diagnostic, mais qui étaient plutôt considérés comme des traits de personnalité. Par exemple, la paresse, si on les prend dans un sens plutôt négatif, donc ça revient assez souvent, ce sont des patients qui étaient jugés comme paresseux. Mais sur un plan aussi plus positif, certains étaient jugés comme doux, ce qui pouvait les prédestiner à des carrières professionnelles comme ergothérapeute. Donc, en tout cas, ce sont des personnes qui ont toujours, qui pour leur entourage ou pour elles-mêmes, ont toujours été telles qu'elles étaient connues, c'est-à-dire qu'elles ne changent pas au moment de l'arrivée du diagnostic. Ce qui fait que l'annonce de la pathologie, elle est plus décrétée que vécue au sens fort, et qu'on a commencé à observer ce décalage entre le point de vue soignant et le point de vue patient. Alors, je vais sauter cette partie pour aller un petit peu plus vite. Donc voilà, la maladie, chez tous ces patients, elle n'a pas tellement la même existence, et son déclenchement, il ne va pas correspondre à la désignation génétique. On l'a vu, donc pour certains, leur problème c'est moins d'avoir une myotonie ou encore une cataracte ou des atteintes fonctionnelles, mais leur difficulté est plutôt de ne pas pouvoir accomplir les activités banales du quotidien. Donc après le diagnostic, il est fréquent que les personnes perçoivent un certain nombre de symptômes plus ou moins invalidants, mais qui ne sont pas mis sur le compte de la maladie. Disons que leur préoccupation à elles se joue plutôt à un autre endroit, celui sur lequel ils ne cessent d'être avertis, en raison des risques que présente la maladie et de mesures préventives qui leur sont conseillées d'être adoptées. Pour eux, la lutte, elle se joue davantage dans le domaine de la santé, donc elle porte sur le maintien d'une vie normale. Il faut préciser que ça leur demande de redoubler d'efforts au quotidien. Donc, ils ont sans cesse à convaincre de leur capacité à mener des actions conformes au rôle attendu et aux places occupées, professionnelles, familiales. Être bon, par exemple, sur le plan professionnel suppose, surtout lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'ils doivent réinvestir l'espace domestique, justement d'avoir à se surinvestir presque. Dans l'éducation des enfants, ils doivent tenir l'intérieur propre, en ordre, continuer une activité sportive. En fait, ça demande quand même un certain nombre à continuer de remplir un certain nombre de normes sociales. Et lorsqu'ils occupent le terrain de l'emploi, ils ont très souvent à se surpasser dans leurs tâches, justement, et à remplir les objectifs comme les collègues. Et à montrer que, justement, ils ne faiblissent pas par rapport aux rôles qui leur sont attribués. Ce qu'on a observé, c'est que ça leur demande du coup de déployer un certain nombre d'astuces, en fait, pour accomplir ces gestes sans être identifiés malades. Pour vous donner un cas concret, et là j'approcherai de la fin, il s'agit par exemple pour un cadre ingénieur d'utiliser un chewing-gum avant de s'exprimer en public, justement pour échauffer sa mâchoire et éviter de connaître un blocage au moment de prendre la parole. Donc, ce sont des techniques qui ont néanmoins des portées limitées, parce que ces astuces finissent par être détectées, notamment pour lui, parce que ça l'a empêché d'intervenir spontanément en public, et parce que ça passe pour un geste impoli lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Donc, ce sont des solutions qui sont trouvées sur le vif et qui restent des enjeux essentiels pour rester à l'intérieur du groupe, s'y maintenir aussi longtemps que possible. Donc voilà, en définitive, toutes ces actions sont développées pour rester dans le monde normal et éviter de donner raison au regard prédictif qui se pose sur ce statut de malade. Elles peuvent d'ailleurs, ces actions, s'exprimer tout en restant assez incomprises de la part de l'entourage et des soignants qui les considèrent soit comme un déni à leur statut de malade ou comme des résistances à l'adhésion au suivi. Donc voilà, en conclusion, on comprend que la dureté de ces interactions entre ce que je vous disais, lié à la mauvaise réputation de ces patients, donc la dureté de ces interactions entre patients et soignants est une manifestation d'un enjeu à vivre avant tout, malgré tout, et à ne pas s'enfermer dans leur seul statut de malade, comme d'ailleurs a pu le constater Michel Calon et Vololona Rabearrizoa, dans la leçon d'humanité de Gino, où justement, eux, ils décrivaient chez un homme atteint de la dystrophie des ceintures la volonté de se situer dans un monde en dehors de la maladie, malgré que le diagnostic ait été posé, parce que celui-ci refusait d'occuper la place qui lui était assignée, et donc d'avoir à consulter, d'avoir à reconnaître la maladie vis-à-vis de ses enfants, etc. Et donc la maladie... Ici, on la voit surtout comme une entrave dans la possibilité d'agir, même si à côté, toutes ces personnes que je vous ai décrites, elles connaissent bien sûr des ruptures dans la vie sociale, professionnelle et amicale, qui sont autant de pertes et de privations à être. Mais ce qu'on observe, c'est qu'elles font également en sorte de se déplacer, de se reconstruire et de reconfigurer leurs expériences, malgré qu'il y ait des contraintes de plus en plus fortes qui pèsent sur elles, comme la perte d'un emploi, le divorce, ou encore l'isolement. La perte d'un enfant, quand même. Donc voilà, ce sera sur ce mot de la fin que je vais terminer.